Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux. Les trois grands titres avec Stéphane Genest et Stéphanie Rock.
L'imam Hassan Iqoucen arrêté en Belgique et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'en félicite. Et à l'international, Vladimir Poutine ne lâche rien. Il confirme l'annexion de 4 territoires ukrainiens. Il continue de s'en prendre violemment à l'Occident.
En football, Marseille, leader provisoire de la Ligue 1 après sa nette victoire 3-0 à Angers.
La matinale week-end.
Il aura fallu attendre un mois d'enquête et de recherche. L'imam Hassan Iqoucen a enfin été arrêté hier en Belgique.
Et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'en réjouit. Il vient de s'exprimer à l'instant dans le cadre de son déplacement en Guyane. L'imam marocain qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen depuis la fin du mois d'août. Un mandat d'arrêt car il était sous le coup d'une expulsion du territoire français, sauf qu'il était introuvable. Il a donc été retrouvé par les enquêteurs grâce à ses communications électroniques. Aujourd'hui donc, Guillaume Biet, Hassan Iqoucen est entre les mains de la police belge.
Après un mois de cavale, c'est bien en Belgique que le prédicateur a été retrouvé, comme le supposaient les autorités françaises. Le minutieux travail d'enquête de la police judiciaire a permis de le localiser à Mons, tout près de la frontière, à une cinquantaine de kilomètres seulement de son domicile, d'où il s'était enfui avant la décision du Conseil d'État, confirmant son arrêté d'expulsion. Les enquêteurs français ont transmis tous les renseignements à leurs homologues belges, qui ont donc pu interpeller l'imam hier. La Belgique devrait désormais exécuter le mandat d'arrêt européen émis par la France, c'est-à-dire renvoyer Hassan Iqoucen, qui sera alors présenté au juge de Valenciennes en charge de l'information judiciaire ouverte pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'expulsion. Une expulsion qui, en revanche, est loin d'être acquise car le Maroc refuse désormais de l'accueillir.
La précision signée Guillaume Biet, chef du service police-justice de RMC. En bref, 4 hommes mis en examen hier pour traite d'êtres humains en bande organisée et viol en réunion dans l'enquête sur la plateforme de vidéos pornographiques French Bukkake. Et toujours au chapitre judiciaire, Patrick Poivre d'Arvor sous le coup de 2 nouvelles plaintes pour violences sexuelles. L'ancien présentateur vedette du 20h de TF1 est déjà concerné par une enquête ouverte par le parquet de Nanterre.
L'une des accusations s'appelle Hélène Devin, qu'elle vient de publier Impunité aux éditions du Seuil, et elle sera notre invitée tout à l'heure à 8h40 sur RMC. Pour l'heure, il est 6h02, direction les États-Unis où l'ouragan Yann frappe la Caroline du Sud.
Et dernier bilan fourni ce matin, il s'élève à 23 morts après le passage de l'ouragan en Floride ces derniers jours. Antoine Lard.
La situation reste très compliquée. Il y a toujours des personnes qui sont coupées du monde et dont on est sans nouvelles. Il y a donc des opérations de recherche et de secours qui se poursuivent dans des conditions difficiles. Il faut vérifier chaque maison, faire du porte-à-porte, tout ça sur une zone immense. Le travail est titanesque pour les secours. Ailleurs, les opérations de déblayage commencent. Il y a d'ailleurs beaucoup de solidarité avec des gens qui viennent aider. Mais là aussi, la tâche est immense. Il y a des débris et des dégâts sur des centaines et des centaines de kilomètres. Enfin, pour ne rien arranger, dans certains secteurs, l'eau continue de monter. Et ce soir, c'est une partie de l'autoroute qui est coupée par l'eau.
Antoine Larrot, aux États-Unis pour RMC. Les États-Unis qui, par ailleurs, condamnent fermement l'annexion de 4 régions ukrainiennes par la Russie. Vladimir Poutine l'a officiellement confirmé hier lors d'un grand discours et d'une grande cérémonie sur la place Rouge à Moscou. Il s'en est aussi violemment pris à l'Occident.
C'est bien l'Occident qui a piétiné le principe d'inviolabilité des frontières. Voilà pourquoi ils sont révoltés par le choix des habitants du Donbass, de Lugansk, de Kherson, de Zaporijia. L'Occident n'a aucun droit de parler de la démocratie et des droits des peuples. Ils n'agissent que dans leur intérêt et leurs demandes sont presque totalitaires.
Et conséquence de la guerre en Ukraine ici en France, vous le savez, c'est bien évidemment la hausse du prix de l'énergie.
Le prix du gaz, de l'électricité ou du fioul qui s'envole. Alors pour faire face à cette tendance, l'Union européenne hausse le ton. Elle tape sur les doigts des grands producteurs et fournisseurs d'énergie. Les ministres européens se sont mis d'accord hier sur une forme de taxe sur le superprofit. Et en France, le ministre de l'économie va aussi réunir tous Beaumont de mercredi prochain. Sont notamment attendus à Bercy, Total, Engie ou EDF. Et ils sont tout de même sous pression, Romain Cluzel.
Une pression d'abord au niveau national. Pour la première fois, Bruno Le Maire affiche son mécontentement et annonce une forme de contrainte envers les énergéticiens. Il souhaite leur faire signer un code de conduite pour garantir des prix raisonnables aux entreprises. Plusieurs PME se retrouvent en grande difficulté en pleine négociation pour leurs contrats d'énergie. Au niveau européen, la taxe sur les surprofits décidée hier ne devrait pas avoir d'effet immédiat sur nos factures d'électricité. Mais l'effet sera indirect, explique Jean-Pierre Favennec, professeur à Paris Dauphine, spécialiste de l'énergie.
L'idée, c'est d'utiliser pour les États la taxe sur les superprofits pour atténuer un peu le coût pour les États du bouclier tarifaire. Ce sont les États qui vont décider de protéger les consommateurs. Ça va coûter de l'argent à l'État et l'État va récupérer un peu d'argent à travers la taxe sur les superprofits.
Cette taxe devrait voir le jour le 1er décembre prochain et pourrait rapporter 140 milliards d'euros au niveau européen.
Et puis oubliez tous ces clichés, le tricot, le crochet, le scrabble. Nos aînés ont une vie sentimentale.
Oui Mathieu, quels sont les clichés? Puisque d'après un rapport publié par les petits frères des pauvres, les seniors veulent des relations intimes. À plus de 60 ans, on retombe amoureux. Et à plus de 60 ans, on a aussi envie de faire des galipettes à Modine Réau.
Laurence, parisienne divorcée de 63 ans, cherche l'amour et son âge n'est même pas une question.
Comme quelqu'un de 20 ans, j'ai eu 20 ans, j'ai eu 30 ans, j'ai eu 40 ans, je recherche quelqu'un dont je puisse me sentir amoureuse. C'est pas juste pour avoir un bâton de vieillesse, dire ah bah on finit tous les deux en soignant nos rhumatismes.
Pascal, divorcé lui aussi, l'assume. À 65 ans, on a toujours besoin d'affection.
Ça me manque énormément. Après le côté sexuel, oui, mais enfin bon, la libido diminue avec l'âge. Bien sûr, ça compte. Mais ce qui me motive, c'est vivre des bons moments avec une personne agréable.
À l'agence matrimoniale, entre elle et lui, un tiers des dossiers concernent les seniors. La directrice Valérie Bruat.
Vieillir, c'est tabou, donc on ne parle pas beaucoup de la vieillesse. Quand j'ai commencé à recevoir des candidats qui avaient l'âge de mes grands-parents, j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait avoir effectivement une vie sentimentale et être en demande de sexualité. J'ai déjà rencontré des personnes qui m'ont parlé de sexualité à 80 ans. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans la vie, la sexualité est présente aussi.
Selon le rapport des petits frères des pauvres, un senior sur deux a des relations intimes.
Eh bien, parlons-en. N'hésitez pas, allez-y, 32-16, c'est le week-end, c'est tôt le matin. Parlons de ce sujet. Oui, sérieux. Mohamed fait une blague sur l'appli Direct Studio. Il reprend Coluche en disant « Avec ma femme, on a des relations sexuelles, mais ce genre de relations, on ne les voit pas souvent. » Allez-y, n'hésitez pas, on vous attend. Il est 6h07. Stéphanie Roch, le sport, c'est d'abord le football. L'OM déroule à Angers.
Une victoire nette et sans bavure, 3-0 grâce à des buts de Clauss, Suarez et Gerson. Marseille prend la tête du classement provisoire avec un bilan comptable de 7 victoires et 2 nuls. Plus que satisfaisant pour le milieu de terrain, Valentin Rongier.
On enchaîne en championnat du moins et on a un gros rythme et on est très content d'avoir bien repris après cette trêve internationale parce que c'est jamais des matchs faciles. Ça veut dire que voilà, on est là et qu'on a un gros rythme. Paris n'a pas encore joué, mais c'est vrai que 23 points c'est beau et on fait ce qu'il faut sur le terrain et ça fait plaisir d'être récompensé d'un point de vue comptable.
Marseille est là à Paris et prévenu. Deux matchs à suivre cet après-midi sur RMC, Strasbourg-Rennes à 17h. Et justement, le Paris Saint-Germain qui reçoit Nice à 21h pour les retrouver. Entre autres, entre Christophe Galtier, le technicien parisien, et le club azuréen.
Alors justement, Rennes qui se rend à Strasbourg pour la suite de cette 9e journée avec des ambitions et des certitudes.
Les Bretons qui semblent enfin avoir trouvé le rythme, leur rythme de croisière. Dernière défaite en date fin août, c'était lors de la 4e journée. Les hommes de Bruno Genesio occupent une 8e place encourageante, mais l'entraîneur préfère se focaliser sur le jeu plutôt que sur les objectifs.
Je sens une équipe qui commence à prendre forme, à trouver ses marques. Et c'est ça qui va être très important sur ces 11 matchs. Il n'y a pas d'objectif de podium avant la trêve. Je pense que ce qui est important, c'est de continuer à progresser dans le jeu. Parce qu'on sait que c'est grâce à ça qu'on aura sur la durée des résultats.
Une petite stat, Mathieu, que les Rennais n'ont pas manqué de noter. Strasbourg, 18e du classement, est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir encore remporté le moindre match. Match à suivre, ce sera à 17h aussi sur RMC.
Et puis du ballon rond, on passe au ballon ovale. La Rochelle reçoit le Racing 92 pour le compte de la 5e journée de Top 14.
Un match pour se relancer. Les Rochelais ont perdu leur place de leader le week-end dernier au bénéfice du Stade Toulousain. Mais l'équipe, championne d'Europe, entraînée par Ronan O'Gara, impressionne. Et c'est peut-être Laurent Travers, le technicien du Racing 92 et adversaire du soir qui en parle le mieux.
C'est une équipe qui sait user l'adversaire, qui est énormément sur le défi, mais qui est capable aussi d'allier puissance et vitesse. Et donc à partir de là, lorsqu'ils vous ont usé sur le côté puissance, ils arrivent à justement décaler et mettre de la vitesse. Vous n'êtes pas sur le haut du tableau tous les ans par hasard. Et c'est donc automatiquement, c'est lié bien sûr aux qualités avant tout de l'effectif et du staff.
le Stade Rochelet contre le Racing 92. Match à suivre, coup d'envoi 21h05 sur RMC. Bien sûr, une cinquième journée qui débutera dès 15h avec l'Union Bordeaux-Bègles qui recevra le Stade Français.
Merci beaucoup Stéphanie, on se retrouve tout à l'heure à l'admi à 6h30 pour le journal complet des sports. En attendant, 6h et presque 10 minutes, soyez les bienvenus. La matinale week-end, on est ensemble pendant 3h jusqu'à 9h avec vous. Bien sûr, vous nous rejoignez. Que faites-vous ce week-end? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Déjà pas mal de messages, de petits bonjours sur l'appli RMC.
En effet, Mathieu, racontez-nous. N'hésitez pas pour nous laisser vos messages. Vous avez plusieurs possibilités. Le groupe Facebook Les Matins RMC. Il suffit tout simplement de vous abonner et vous allez pouvoir échanger avec nous et même entre vous. Et puis, il y a également l'appli RMC sur Direct Studio. Vous laissez vos messages directement. Il y a Émilie qui dit bonjour à mon équipe préférée du matin.
Oh, salut Émilie.
Aujourd'hui débute Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein. Femmes et hommes aussi sont concernés, c'est vrai, exactement. Laurent nous dit, salut les nuits du week-end.
Salut Laurent.
17 degrés à 7h en Bretagne. C'est vrai qu'il fait particulièrement doux ce matin sur l'ouest du pays. Il dit, le chauffage n'est pas encore allumé. Et puis Nicolas qui dit bonjour à toute l'équipe. 10 degrés à Bourg-en-Bresse ce matin. Bonjour à tous les routiers également qui écoutent. Continuez comme ça, merci beaucoup. Merci Nicolas pour votre fidélité.
On vous salue tous et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Vous êtes au boulot, vous en rentrez, vous vous reposez. N'hésitez pas, vous êtes avec nous et vous témoignez au sujet de l'actualité. Tiens, dans un instant...
Un viol, une fusillade, un policier percuté par un scooter, c'est le bilan de la semaine à Nantes.
Et malheureusement, ça devient habituel. Manifestation d'ailleurs cet après-midi à Nantes. Les commerçants, les habitants de la ville contre l'insécurité qui gangrène le centre-ville. Reportage de la rédaction dans une minute.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Il est 6h13, vous êtes sur RMC, soyez les bienvenus. 6h13 et il pleut sur Nantes ce matin, cette petite pluie fine des matins gris du samedi, après une nouvelle semaine marquée par l'insécurité. Un viol, un policier percuté par un scooter, une fusillade, le trafic de drogue. Voilà le bilan de la semaine. Cette sixième ville de France fait face à une montée de la délinquance quasi quotidienne qui gagne désormais le centre-ville de Nantes. Cet après-midi, 15h, les habitants et les commerçants manifesteront à l'appel de l'association S2N, Sécurité Nocturne Nantes, parce que dans les rues, certains Nantais disent... ne plus se promener sereinement le soir. Le reportage de la rédaction d'RMC est signé ce matin Jules Housseau.
L'insécurité gangrène-t-elle l'agglomération nantaise? Oui, selon certains habitants qui n'osent même plus sortir le soir dans le centre-ville ou alors jamais seul.
Je sais que je ne dois pas sortir trop tard le soir parce que ce n'est pas forcément très recommandé. Je ne me sens pas trop en sécurité parce que le soir, quand il faut rentrer chez soi, même 5 minutes à pied, dans certaines rues, c'est un peu compliqué. On se prend des remarques, des commentaires. Si on ne répond pas, on se fait traiter de salope.
Passer une certaine heure, faire un peu gaffe, essayer de ne pas rentrer tout seul.
Selon le quartier où on sort, on se sent plus ou moins en sécurité.
Problème si, comme dans toutes les grandes métropoles, il y a à Nantes des quartiers effectivement plus sensibles. Ce sentiment d'insécurité pèse désormais sur l'hyper-centre-ville comme à Bouffay ou en Gare à Bananes ou Place du Commerce.
J'essaie d'éviter le commerce parce qu'il y a trop de gens dans les recoins. Il y a beaucoup d'insécurité.
C'est qu'à commerce, il y a beaucoup de gens qui nous demandent de la drogue. Généralement, en fin d'après-midi, vers 17h, on me dit des paroles que je ne comprends pas, mais je vois très bien qu'ils ne sont complètement pas dans leur état normal.
La drogue, voilà le principal fléau auquel Nantes est aujourd'hui confrontée et qui expliquerait en partie cette flambée de violence. Depuis le début de l'année, 39 usages d'armes à feu ont ainsi été recensés dans l'agglomération, en grande partie sur fond de trafic de stupéfiants, dont deux durant cette seule semaine, avec un blessé grave mercredi et un mort jeudi. Les deux victimes de 17 et 18 ans habitaient le même quartier, celui des Dervalières. On ignore si les deux affaires sont liées. Toujours est-il que Nantes, longtemps considérée comme une ville plutôt tranquille, découvre ce phénomène avec fracas. Didier Martin, préfet de la Loire-Atlantique.
Aujourd'hui, c'est une métropole de niveau européen, avec une population qui a doublé en 20 ans, donc une ville qui s'est enrichie. Les trafiquants de drogue ont constaté qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec l'arrivée de trafic de stupes qui n'était pas précédemment connu sur l'agglomération.
Une agglomération qui pourtant enregistre une baisse de 10% des faits de délinquance sur la voie publique depuis 2019, dernière année de référence avant la crise Covid. Toutefois, la maire de Nantes, Johanna Roland, doit s'entretenir avec le ministre de l'Intérieur mardi. Elle demandera alors à Gérald Darmanin le renfort d'une compagnie de CRS permanente, soit 80 fonctionnaires.
Merci Jules Housseau, correspondant d'RMC à Nantes. La maire Johanna Roland a rendez-vous mardi au ministère ministère de l'Intérieur. Elle compte demander un renfort policier, 80 agents supplémentaires pour des rondes de nuit. Le maire adjoint à la sécurité, Pascal Bollot, sera avec nous tout à l'heure, 8h10 sur RMC. N'hésitez pas si vous souhaitez l'interpeller.
Et si vous habitez à Nantes, vous avez la parole ce matin. Reconnaissez-vous votre ville? Vous sentez-vous en insécurité? Ou trouvez-vous qu'on en fait trop? 32-16 pour témoigner en direct sur RMC.
Bah, c'est le numéro que compose à l'instant Gwendoline, qui est avec nous.
Bonjour Gwendoline.
Vous êtes à Nantes.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes à Nantes, oui. Gwendoline. Bonjour à vous.
Oui, tout à fait. J'habite à Nantes depuis 13 ans. Ouais.
Comédienne, Gwendoline. Ouais. Je précise aussi, parce que vous nous l'écrivez, vous vous déplacez en fauteuil roulant.
Tout à fait.
Et justement, c'est ça qui est intéressant. Vous dites, je suis une femme assez jeune, je me déplace en fauteuil roulant et je ne me sens pas si en insécurité que ça.
Non, je trouve qu'on en fait beaucoup. Alors moi, je viens de Grenoble à la base, donc
oui.
Effectivement, à Grenoble, oui, quand j'étais jeune, j'y ai grandi, je me sentais en insécurité quand je sortais la nuit. Oui. C'est une ville qui, même en centre-ville, craint depuis très longtemps, et apparemment c'est pire maintenant, mais ça fait un moment que j'y suis pas retournée. Mais à Nantes, écoutez, moi j'ai des problèmes comme tout le monde, comme dans les grandes villes, ça peut arriver de se faire alpaguer, embêter, mais bon, je trouve qu'on en fait beaucoup. C'est une ville dans laquelle j'ai pas de soucis à sortir le soir.
Vous vous sentez pas en insécurité en fait?
Non, pas plus que dans n'importe quelle autre ville, enfin même moins plutôt que dans d'autres villes. J'ai habité Lyon aussi. Et non, ça reste une ville pour moi qui est assez tranquille. Ça dépend les quartiers.
C'est
bien
ce que
sûr.
J'allais dire. Ouais.
Bervalières, Malakoff, c'est des quartiers qui sont, ben, voilà, où on va peut-être un peu moins traîner le soir. Mais en centre-ville, moi, j'ai pas de soucis, quoi. Je me sens pas.
Au contraire, Gwendoline, l'association qui appelle à manifester dit justement que là où cette délinquance était limitée, comme vous dites, aux Dervalières, à Malakoff, maintenant ça gagne aussi le centre-ville, la place du commerce. Ce sont des quartiers que vous fréquenter et
oui,
vous
oui,
n'avez
oui,
pas vu évoluer ces quartiers?
Si, mais en fait, il y a, disons qu'on a une population de jeunes marginaux, de sans-abri qui est beaucoup là.
Qui a toujours été là, d'ailleurs, hein, Gwendoline, sur la place du commerce.
Là, exactement. Ouais. Seulement, comme ils ont refait tout au niveau de bouffée et tout, c'est vrai qu'on les voit un peu plus. Après, c'est une population. Moi, je sais que je discute assez facilement avec eux et tout, donc j'ai pas de problème. Enfin, faut. Je pense que voilà.
C'est-à-dire on surréagit.
Sur les grands chevaux. Ouais, exactement.
On surréagit. Il y a eu ce viol, il y a eu cette fusillade, il y a eu ce policier percuté à scooter, tout ça en une semaine. Ça fait beaucoup, c'est certain.
Oui, ça fait beaucoup.
Mais vous pensez qu'on surréagit? Le sentiment d'insécurité, finalement, on le fabrique presque.
Ben, on en parle beaucoup. C'est un peu le problème maintenant des réseaux sociaux, du fait que chaque fait divers est connu et commenté. Enfin, je veux dire, des viols, je suis désolée, mais il y en a toujours eu.
Donc vous pensez en fait que ça n'a pas augmenté, mais c'est le fait d'en parler aujourd'hui qui fait qu'on a ce sentiment. C'est ça? C'est comme ça que vous ressentez les choses?
Moi, en tout cas, c'est comme ça. Moi, maintenant, c'est les gens qui disent « Oh mon Dieu, tu vas en ville, fais attention et tout ». Les gens s'auto-font peur tout seul avant même qu'il leur soit arrivé quelque chose finalement. Donc,
alors là où c'est intéressant, c'est que du coup on va pouvoir élargir le débat au-delà de Nantes. Vous connaissez des grandes villes de France, vous y vivez, vous y avez vécu, vous témoignez ce matin. Est-ce que de plus en plus vous vous sentez en insécurité ou pas? Ou comme Gwendoline, vous savez raison garder, c'est ce que vous nous écrivez d'ailleurs Gwendoline dans votre petit message.
Ouais.
Il faut parfois aussi se méfier. Le sondage du week-end dernier paru dans le Figaro qui plaçait Nantes comme ville, l'une des villes les plus dangereuses du monde. On a appris depuis que ce sondage était manipulé de tous les côtés. Le viol, la victime du viol du week-end dernier dit aussi et dénonce par la voix de son avocat la récupération politique de son agression. Allez-y, 32-16 pour poursuivre cette discussion et pour vos témoignages. Merci Gwendoline.
Bonne journée.
Je vous en prie. Bonne journée à vous, bon week-end.
Bonne journée, merci à vous. Je rappelle qu'à 8h10, le maire adjoint à la sécurité de Nantes sera avec nous sur RMC 32-16, là aussi pour l'interpeller. Il est 6h20.
À suivre dans la matinale week-end.
Comment réduire sa facture au supermarché et chez le boulanger?
Ah ben ne bougez pas, Anthony Morel a des solutions anti-gaspi. C'est déjà demain dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Bienvenue sur RMC. Allez, dans 20 minutes, à 6h40, enquête RMC. Un an après l'adoption de la PMA pour toutes, est-ce que les choses ont vraiment changé pour les femmes? Bon, je vous spoil, c'est non, la réponse. On verra ça dans 20 minutes. À la une du journal de 6h30, les annexions de territoires ukrainiens en Russie. Que peut-il se passer maintenant? Mais d'abord, encore un bon moyen de faire des économies.
RMC, la matinale week-end.
C'est déjà demain.
Et on peut toujours compter sur lui, Anthony Morel, pour nous faire du bien au porte-monnaie.
Et c'est vrai que ça fait mal ces derniers temps au moment de passer à la caisse du supermarché, entre 7 et 10% de hausse le mois dernier.
Ouais, on l'a tous constaté. Bonjour Anthony.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
Alors l'une des manières de préserver son pouvoir d'achat face à l'inflation, eh bien il suffit d'y penser, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. Il y a des innovations pour réduire ce gaspillage.
Je vais vous en présenter trois qui sont absolument géniales. La première, c'est pour les boulangeries. On parle beaucoup de l'augmentation du prix du pain en ce moment.
1,50€ la baguette.
Exactement. Et bien, il y a une start-up bordelaise qui s'appelle Explicit qui a mis au point le crumbler. C'est une machine qui transforme le pain sec en pain frais.
Non.
À la fin de la journée, plutôt que de jeter, on met toutes les baguettes, tous les pains vendus dans cette machine qui va aller broyer en miettes, les réduire en une sorte de farine, de fine chapelure. Et cette chapelure, eh bien, elle va pouvoir être réutilisée. Soit pour fabriquer d'autres pains, on va remplacer 20% de la farine par cette chapelure et on se retrouve avec des baguettes qui sont tout aussi délicieuses que les baguettes traditionnelles. Ouais, absolument. Elles sont baptisées d'ailleurs les 20%. Elles sont un petit peu plus foncées, un peu plus croustillantes.
Ah
aussi.
Oui, j'ai déjà vu ça. Eh bien, ouais, ça mais vient de là. Franchement, la 20% dans la boulangerie.
Exactement. Bah, vous ne faites pas la différence, mais c'est juste que vous avez de la farine recyclée, si l'on peut dire. Ou alors, on peut s'en servir pour faire des cookies, des muffins, de la pâte à pizza, peu importe. Ça permet de limiter le gaspillage. Puisque
elles sont vendues moins cher.
Eh ben forcément, vous produisez et vous limitez de 1/5 le prix de la farine qui s'évapore oui. finalement dans le prix du pain. Donc ben forcément, vous pouvez vendre ces baguettes moins chères que
et
les baguettes
de rien,
classiques.
Moi, en tant que consommateur, client régulier, je peux rapporter le lendemain le pain que je n'ai pas consommé la veille.
Alors
boulanger.
Éventuellement, c'est ça. En général, c'est
une sorte de programme de fidélité
exactement,
avec son boulanger.
Absolument. Donc c'est très malin. Donc ce crumbler, qui est un investissement hein, pour les boulangers, ça coûte autour de 2 000 €. Donc ça peut se louer aussi. Donc ça s'amortit au fil du temps. Et d'ailleurs, ils réfléchissent à une version, y compris pour les particuliers.
Alors, il y a un autre truc. Et alors là, mais vous tapez dans le mille. Récupérer le ketchup ou le dentifrice qui reste collé au fond du tube. Ça m'exaspère.
Ah ben oui, mais tous. Enfin, on a tous fait. Voilà, on est sur ces coquillettes là, en train de serrer le pot de ketchup. Et évidemment, il y a plus rien qui sort parce que voilà, juste.
On croit qu'il y en a encore.
Et il y en a encore parce qu'il y a 15%. Alors, c'est une étude américaine. Il y a 15% des tubes de moutarde, de ketchup, de lotion pour la peau qui sont jetés à la poubelle en fait. Et donc, ce qu'ont mis au point ces ingénieurs du MIT prestigieux université américaine. C'est le Liquid Glide, c'est une bouteille de ketchup anti-adhésive. Il y a un revêtement spécial à l'intérieur qui recouvre l'intérieur de la bouteille et qui va laisser filtrer en permanence une fine couche de lubrifiant qui va permettre à, alors ça peut être du ketchup, mais ça peut être du dentifrice ou peu importe, de couler en fait quasiment
jusqu'à
comme de
la dernière goutte.
Jusqu'à la dernière goutte, c'est génial. Et ça commence à être commercialisé aux États-Unis. Donc voilà encore une innovation contre le gaspillage.
Et puis dernière innovation pour éviter que les fruits pourrissent.
Ouais, alors ça peut sembler assez fou. C'est une start-up américaine qui s'appelle Reap Labs. Qui a mis au point des autocollants comme ceux qu'on trouve un petit peu sur les pommes. Vous savez, vous avez l'espèce oui. de la pomme. Sauf que là, ça va allonger de 2 semaines la durée de vie des mangues, des citrons ou des avocats qui ont tendance à pourrir vite.
Il y a un produit dans l'autocollant.
Exactement. Ils ont recréé en laboratoire, en utilisant seulement des produits naturels, je le précise, les composés que les plantes émettent naturellement pour se protéger des maladies. Et ça va créer une couche protectrice autour du fruit qui limite les effets du pourrissement. C'est une technologie qui a été brevetée et qui, là encore, pourrait éviter de jeter des tonnes et des tonnes de nourriture.
Eh ben voilà. Merci beaucoup, Anthony Morel. On vous retrouve en podcast, bien sûr, sur l'appli RMC. 6h25.
La matinale week-end.
Les courses RMC.
La Dream Team des courses avec nous le samedi, le dimanche. Bonjour Dimitri Blanc-L'Œil.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un gros week-end en perspective pour vous. C'est un peu votre festival de Cannes parce que demain, prix de l'Arc de Triomphe, la plus grande course de galop du monde. Aujourd'hui déjà, Longchamp, une sorte d'entraînement. On s'échauffe
oui,
aujourd'hui.
Oui, c'est un peu ça. C'est un peu l'entrée, voilà. C'est un quintet classique, mais nous sommes déjà à Paris-Longchamp.
15h15 le départ, avec des galopeurs aussi.
Oui, 18 sur la grille de départ, ils sont quand même beaucoup. Hein.
Votre dernier bruit, Dimitri, parce qu'on a besoin de savoir un petit peu sur quoi il faut miser dès aujourd'hui.
Ah bah, un poulain qui n'a pas beaucoup couru, c'est le numéro 18 dans le quintet du jour, donc Recou, qui s'appelle comme ça. Hein, voilà. Il a couru à Paris-Longchamp dernièrement, il a terminé 3e, donc il connaît la piste. Moi, il me plaît beaucoup. Voilà. Il va découvrir en tout cas la distance sur cet hippodrome. Il a couru 2200 mètres dernièrement, là c'est 2500, mais j'ai pas de doute quant à sa tenue.
Bon, pas de doute, mais un peu un coup de poker quand même. La cote de confiance est élevée à combien?
Ah, ça reste un quintet avec 18 partants quand même. Hein. Donc, oui. L'indice de confiance, si on devait mettre 5 étoiles, je suis à 3. Quoi, hein.
Ah, voilà, c'est bien ce que je me disais. Si jamais ce numéro 18 ne part pas.
Alors, s'il y a un non partant, voilà, de dernière minute, ça peut arriver. On partirait sur le numéro 15, Utamaro, qui lui a beaucoup plus d'expérience et il est très régulier. Il a du mal à gagner, mais voilà, il a des références, il peut rentrer dans le quintet. Voilà.
Merci beaucoup, Dimitri. On vous retrouve tout à l'heure à 13h sur RMC. Dans un instant, votre météo complète, les infos, le sport. À tout de suite. À la une, Stéphane Genest, c'est donc confirmé, la Russie a bien annexé une partie de l'Ukraine.
Quatre régions du pays de l'Est et du Sud, les pays occidentaux, eux, ne reconnaissent pas cette prise de territoire. Mais concrètement, qu'est-ce que ces annexions changent, Alexandra Sirgan?
C'est près de 100 000 km de territoire ukrainien que s'approprie la Russie. Cette annexion marque un véritable tournant dans le conflit, selon Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors.
Quatre territoires deviennent des sujets de la Fédération de Russie, ils bénéficieront de la protection de la dissuasion nucléaire russe et les populations de ces territoires seront mobilisables. Donc, le rapport de force sur le terrain militaire, pas immédiatement, mais à moyen terme, sera changé.
En revanche, pas de véritable changement de comportement à prévoir du côté des Occidentaux, explique Sylvain Kahn, géographe et historien spécialiste de l'Europe.
On va continuer à armer les Ukrainiens, on va continuer à les soutenir, on va continuer à être derrière eux, mais rien n'indique que les Occidentaux vont s'engager militairement dans le conflit.
Dans l'immédiat, les négociations entre Kiev et Moscou sont au point mort.
Des négociations au point mort, d'autant que la communauté internationale condamne ces annexions. Les États-Unis, d'ailleurs, devraient dans la semaine fournir une nouvelle aide militaire à destination de Kiev.
Autre grand titre ce matin, l'arrestation de l'imam Hassan Iqiyoussen.
Interpellé hier en Belgique, à Mons précisément, non loin de la frontière avec la France, Hassan Iqiyoussen, qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen depuis la fin du mois d'août, car recherché dans le cadre d'une expulsion du territoire français. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'instant, s'en réjouit. Il vient de s'exprimer, tout comme l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi. Pour lui, c'est une bonne nouvelle.
L'État a montré sa souveraineté. Un homme qui est condamné, quand même, à être expulsé, il n'a pas respecté. Ils l'ont cherché. Ça, ça montre la force de l'État de droit aussi. Hein. Ils le ramènent à la justice. Je suis certain, j'espère que la justice va le sanctionner par rapport à cette fuite, et aussi j'espère il le sanctionne aussi par rapport à tous ces discours. C'est un exemple à montrer tous ces terroristes, tous ces islamistes sur les réseaux sociaux, que qu'est-ce que vous faites là, tôt ou tard la justice elle vous récupère.
Le reste de l'actualité en bref, Stéphane.
23 morts en Floride après le passage de l'ouragan Ian ces dernières heures. Il traverse actuellement l'état de la Caroline du Sud. Tout à moins 50% chez Camaïeu. Aujourd'hui, dernière journée d'ouverture des 500 magasins de l'enseigne avant leur fermeture définitive ce soir. L'entreprise qui a été placée en liquidation judiciaire cette semaine. Ce sont en total plus de 2600 personnes qui vont devoir retrouver un travail. Et la stupeur, un cyclone Barra chez Europe Écologie Les Verts ce matin. D'après une enquête publiée par Libération, Julien Bayou vivait depuis 3 ans sous la surveillance de militantes féministes du parti. Julien Bayou qui a démissionné cette semaine de son poste de secrétaire national du parti après qu'une ex-compagne l'a accusé de violence psychologique. On y revient dans le journal de 7h.
À tout à l'heure, Stéphane. Et bonjour Stéphanie Rock.
Bonjour Mathieu.
6h33.
RMC, le journal des sports.
On démarre avec du foot, l'OM en déplacement à Angers qui s'est imposé en patron.
Notamment grâce à un homme, Jonathan Clauss, très en vue ces dernières semaines. L'international français a une nouvelle fois éclaboussé la rencontre de tout son talent. Alors il est latéral droit de formation, mais il a même dépanné hier couloir gauche. Il est indispensable à l'Olympique de Marseille, comme nous l'explique Pierre-Yves Leroux.
Un but pour ouvrir le bal et 2 passes décisives pour fermer le banc. Jonathan Clauss s'est cru dans son jardin au stade Raymond Coppa hier soir. Une performance qui a permis à l'OM de se mettre rapidement sur de bons rails et confirmer tout le bien que pense Igor Tudor de son latéral.
C'est un joueur incroyable. Je le savais dès la première fois où je l'ai vu. Et c'est un bon garçon. C'est un plaisir d'être son entraîneur.
Depuis le début de la saison dernière, Jonathan Clauss est tout simplement le défenseur le plus décisif parmi les 5 plus grands championnats européens avec 6 buts et 15 passes. Une statistique qui faisait plaisir à l'ancien Lensois à l'issue de la rencontre.
Ça m'inspire à continuer, à me dire que je suis sur la bonne voie, mais que ça continue surtout, que je m'arrête pas de bosser et que je m'arrête pas de persévérer dans ce que je veux aussi, et voilà ce que ça donne.
Le nouvel international en pleine confiance devrait vivre un autre rêve avec la Coupe du Monde pour ses 30 ans qu'il a fêté cette semaine.
Une belle manière de de souffler sa 30e bougie, Klos, qui offre la première place provisoire à l'Olympique de Marseille.
Oui, attention, parce que Paris pourrait reprendre la tête dès ce soir.
Le PSG reçoit Nice, l'ancien club du technicien parisien Christophe Galtier. L'occasion de fêter la probable première titularisation du jeune prodige Hugo Ekitike, 20 ans, prêté par Reims. L'attaquant dont Fabrice Hawkins nous brosse le portrait.
Habitué aux miettes de fin de match, Hugo Ekitike attendait avec impatience sa première titularisation. Depuis le début de la saison, il n'a joué que 67 minutes en 8 matchs de championnat. Frustrant pour un joueur qui était convoité par le Real Madrid et le Bayern Munich l'été dernier, mais en attaque, les places sont chères à Paris. Mbappé, Messi et Neymar ne laissent pas grand-chose. L'ancien Rémois, qui est arrivé en prêt avec option d'achat quasi obligatoire de 36 millions d'euros, s'est réfugié dans le travail, abri à l'entraînement sous les yeux d'un Christophe Galtier sous le charme. Il a des fourmis, ça le démange. Je lui ai dit que les bonnes périodes vont arriver. Très rapidement, il aura beaucoup de temps de jeu, avouait le coach du PSG avant la trêve. Son heure est arrivée. L'attaquant de 20 ans devrait débuter ce soir. L'occasion de lancer sa saison avec, pourquoi pas, un premier but sous ses nouvelles couleurs.
Et pourquoi pas PSG Nice à suivre sur RMC dès 21h. À noter, côté parisien, les absences de Kimpembe blessé et de Verratti suspendu.
Deux autres infos foot en bref, Stéphanie.
Le rachat de l'Olympique lyonnais par l'américaine John Textor va attendre. Il était prévu hier, il a été repoussé. Dans un communiqué, le club indique une nouvelle date butoir fixée au 21 octobre. Et chez les femmes, Kerem Rawi a repris l'entraînement collectif avec son club du Paris Saint-Germain. Pour rappel, la parisienne s'entraînait seule depuis la reprise de l'équipe. L'enquête, elle, se poursuit après la mise en examen de son ancienne coéquipière Aminata Diallo.
6h36, on en vient au rugby, 5e journée de Top 14. Clermont reçoit les Lyonnais qui se cherchent encore.
Lyon, c'est l'équipe de tous les paradoxes. Meilleure attaque du Top 14 avec déjà 13 essais au compteur. Et pire défense, 109 points encaissés en 4 journées. Le loup tâtonne après 5 journées, des problèmes d'indiscipline, à corriger très vite pour l'ailier Ethan Dumortier.
C'est usant pour tout le groupe parce qu'on travaille dur, on essaie de faire les choses bien et ça nous pénalise beaucoup. Au-delà du fait de faire une faute et de perdre du terrain ou de prendre des points, c'est que ça nous pénalise sur l'effort qu'on fait tous sur le terrain. Et c'est ça qui est dur.
Clermont-Lyon, coup d'envoi, Mathieu, bah sur RMC à 17h.
Évidemment, et juste avant, c'est le Stade français qui se déplace à Bordeaux.
Pas encore un match de la peur, mais les deux équipes n'ont pas donné beaucoup de gages à leurs supporters depuis la reprise. L'Union Bordeaux-Bègles bégaye toujours son rugby avec 3 défaites au compteur en 4 matchs. Pas mieux pour le Stade français qui reste traumatisé après une saison cauchemardesque. Explication Julien Richard.
Moins pire, mais pas franchement rassurant. Après sa saison ratée l'an dernier, pas qualifié pour les phases finales, le Stade français va plutôt bien sur le plan comptable, 2 victoires, 2 défaites. Mais Paris est toujours aussi inconstant dans le jeu. Illustration la semaine dernière avec la défaite à Lyon. Bonus défensif perdu dans les dernières secondes après une entame catastrophique.
Disons que quand on perd 20 à 3 au bout de 20 minutes, c'est compliqué de gagner un match.
Lucas Peyre-Blanc, le talonneur parisien.
Ça nous fait grandir, mais voilà, on veut aller plus vite que ça et enchaîner les victoires.
Le Stade français a changé pas mal de choses à l'intersaison. 14 nouveaux joueurs, notamment un peu de chance aussi avec la blessure de sa recrue phare, Morgan Parra. Paris tente de se reconstruire, mais ça prend du temps. L'entraîneur de l'attaque du Stade français, Julien Arias.
Ouais, il est tôt, mais on sait aussi que le Top 14 va très vite, donc on a pas non plus trop de temps. Les week-ends s'enchaînent et tous les points sont importants.
Et la mission s'annonce compliquée sur le terrain de l'UBB, revancharde après avoir perdu 3 de ses 4 premiers matchs. Le Stade français qui reste en plus sur 7 défaites lors des 7 derniers déplacements à Bordeaux.
Bordeaux-Bègles, le Stade français en ouverture de la 5e journée de Top 14, à suivre dès 15h.
Merci beaucoup Stéphanie Rock et à tout à l'heure 7h pour un nouveau tour de l'info et du sport. 6h38, on se réveille ensemble, c'est un vrai plaisir et il va falloir en réveiller une, c'est Peggy Broche. Parce que vous savez que c'est une marathonienne de la radio, Peggy Broche. Je pense que cette semaine, elle a dû dormir en tout et pour tout 3h26.
Voilà, c'est ça. Non, j'avoue, ça doit être la semaine la plus compliquée que j'aurai dans l'année. Après, je dormirai plus.
Mais il faut arrêter de faire des activités extrascolaires.
Faut que j'arrête de sortir le soir, oui, je sais.
Faut arrêter de se mettre au théâtre, tout ça. Boulot, boulot, boulot. Bon, et vous, est-ce que vous êtes au boulot? Est-ce que vous vous réveillez? Bah tiens, dites-nous les petits bonjours, on se réveille ensemble.
Et oui, vous êtes nombreux à nous écrire, hein, comme chaque matin, n'hésitez pas. Sur l'appli RMC Direct Studio, il y a Julien qui nous dit bonjour. Bonjour toute l'équipe du matin.
Salut Julien.
Matinal week-end. Alors il dit, je démarre ma journée d'infirmier libéral à Tonnet-Charente, près de La Rochelle, sous la pluie. Et ouais, et la pluie va durer toute la journée. Et je vous écoute tous les week-ends, votre émission est super, c'est très sympa.
Ça me fait bien plaisir. Salut Julien, bonne tournée et bise à vos patients. Tiens, un autre homme heureux, c'est Momo. Bonjour Momo.
Bonjour Momo. Bonjour à tous.
Momo, les Bouches-du-Rhône. Un homme heureux parce que l'OM est premier.
Ah, ouais.
C'est assez rare pour le souligner, Momo.
Oh, bah ça va, Mathieu.
très heureux et ça annonce un bon week-end ça.
Oui, attention, c'est ce que je disais. Ce soir, le PSG arrive, il peut reprendre la tête de la Ligue 1. Il y a un autre rendez-vous, la Ligue des Champions, dans quoi, 2 jours maintenant, 3 jours.
Ouais, dans 3 jours, mais bon, le bémol, c'est que c'est un match à huis clos.
Eh oui, Momo. Mais bon, ça, on va pas revenir sur toutes les polémiques de supporters. Vous auriez aimé y être?
Comment? Moi qui est supporter ultra, voilà, on va dire, je morfle pour des gens qui font des bêtises, alors et que voilà. Moi, je me comporte bien dans le stade. Quoi.
Bah, c'est ça, c'est que tout le monde est sanctionné pour 2-3 abrutis.
Voilà.
Quoi.
Voilà, c'est ça.
Bah, bien sûr. Vous allez regarder ça à la maison?
Ben, on est obligé de regarder ça à la maison.
C'est quoi, mardi soir, hein?
C'est mardi soir à 18h45.
Bon, alors attendez, parce que je sais que le mieux pour vous, c'est d'être au stade. Si vous regardez ça à la maison, allumez n'importe quelle télé, il n'y a pas de problème, mais surtout branchez-vous sur RMC, parce que les commentaires de Jeannot, il n'y a rien de mieux.
Ouais, je crois même c'est Eric Dimeco qui commente.
Eh ben voilà, vous avez tout compris, la Dream Team sera là, évidemment, pour commenter ces matchs de Ligue des Champions. Momo, au boulot ce matin?
Au boulot ce matin, je finis vers 14h, après... nous, chez nous, c'est l'été indien, donc après, on va profiter un peu. Là.
Vous allez pouvoir en profiter.
Voilà, je vais prendre les petits. J'ai un parc à côté qui est magnifique de chez moi.
On va
promener. Et demain, c'est direction les Calanques.
Pour piquer une tête.
Pour piquer une tête, je vais à Marseille Vert. C'est magnifique. Et c'est là que j'apprécie les Calanques, c'est quand il y a moins de touristes.
Ah bah on est bien d'accord, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en plus c'était, il fallait réserver là dans 2-3 Calanques à cause de l'afflux de touristes. Là au moins vous êtes tranquille, 1er octobre.
Là on est tranquille, cet été en fait il n'y avait que la Calanque de Sujiton où il fallait réserver.
Ouais. Exactement, je me souviens.
Et oui, mais vous êtes dans une région qui attire, qu'est-ce que vous voulez? Les touristes viennent.
Eh oui, non, mais moi j'ai rien contre les touristes, hein, c'est... C'est juste que moi, en fait, j'apprécie l'endroit où je suis quand il y a moins de touristes.
C'est normal.
Bon, ça,
on peut comprendre.
Profitez bien, Momo.
On vous embrasse.
Allez, je vous remercie et passez une bonne matinale. C'est toujours un plaisir de vous dire bonjour.
On est ravis de vous savoir là et de vous accueillir. Salut, Momo. À bientôt. Bonne journée. Bon courage. Faites comme Momo. Rejoignez-nous. Parce que c'est ça, finalement... J'allais dire presque le meilleur moment de ces matinées.
Les échanges.
C'est de vous savoir là, d'échanger avec vous.
Oui.
Même juste pour nous dire ce que vous êtes en train de faire. Peut-être vous êtes au fourneau, encore sous la couette, en train de faire des galipettes. On parlait de la
sexualité. Attendre la fin, c'est ça.
Mais n'hésitez pas. Allez-y. Allez, tiens, dans un instant, tout autre sujet.
Les choses ont-elles vraiment changé pour les couples de femmes et les femmes seules?
Oui, parce que nous sommes un an tout pile après l'adoption de la PMA pour toutes. Est-ce que c'est plus simple, plus facile d'y avoir recours? La réponse est non, bien au contraire. Enquête et chiffres RMC dans une minute.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
7h moins le quart déjà, excellent réveil à l'écoute d'RMC. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Elle a fait un bébé toute seule. Depuis un an, ce n'est plus seulement une chanson, c'est aussi une loi.
Et oui, la loi de bioéthique ouvrant la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules a été décrétée il y a un an tout juste.
L'enquête RMC.
Savoir et comprendre avec la rédaction d'RMC le week-end. Où en est-on un an plus tard? Est-ce que les choses ont changé pour les femmes? Est-ce que cette loi est bel et bien appliquée? Eh bien, force est de constater que non. Les délais sont toujours aussi longs, plus d'un an avant de pouvoir recourir à une procréation médicalement assistée. Bonjour Mao Becker-Granier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous et à toutes.
C'est vous qui signez cette enquête pour RMC. Les freins sont encore nombreux et les parcours longs et sinueux.
Avec ce chiffre, pour commencer, seulement 53 tentatives de PMA pour femmes seules et en couple ont été réalisées entre janvier et mars 2022 sur la France entière. Alors c'est peu, surtout quand on sait que dans le même temps, la demande a explosé. En 3 mois, 5126 demandes de première consultation ont été faites. Conséquence, les parcours s'allongent. Lola, 36 ans, et Claire, 37, ont eu un premier rendez-vous dans un centre PMA à Marseille en avril dernier. Elles espèrent désormais bénéficier d'une insémination en avril prochain, un an après, mais le tout sans aucune certitude.
Quand on se prend 6, 7 mois, 8 mois dans la vue, ça fait un petit peu mal. Et je me dis que mon corps perd du temps, ma vie de famille aussi.
J'ai vraiment le sentiment d'être encore une fois reléguée au second plan.
Un an, il faut attendre un an aujourd'hui en France. Pourquoi c'est si long, Mao? Pourquoi ça patine?
Alors, il y a deux freins principaux. D'un côté, le manque de moyens humains et de l'autre, le manque relatif de dons. Alors, côté humain, avec l'entrée en vigueur de la loi, 120 nouveaux postes devaient être créés dans les centres PMA. Mais, et c'est un chiffre RMC, seulement 25% ont été pourvus, selon la présidente de la Fédération nationale des CECOS, les centres d'études et de préservation des gamètes, Catherine Guillemin.
Il n'y a pas les personnes présentes à la hauteur des besoins recensés. Il n'y a aucune entreprise qui est capable d'assurer une telle augmentation d'activité sans renfort de personnel. Le jour où il y aura tout le personnel présent, on n'aura pas les locaux pour caser tout le monde.
Elle explique qu'il manque du personnel administratif et d'accueil, ce qui allonge l'attente pour les premiers rendez-vous, mais aussi des praticiens, des psys, des gynécologues. Pourtant, le gouvernement renvoie la faute sur les centres eux-mêmes. La loi a été financée à ses débuts, puis au printemps 2022, ils ont bénéficié de 5,5 millions d'euros supplémentaires. Et ce sont les centres qui décident de l'usage de leurs moyens, c'est-à-dire quelle part ils attribuent aux équipements ou au recrutement, par exemple.
Il y a un autre frein, hein, Mao, qu'on évoque d'ailleurs régulièrement, c'est le manque de dons de gamètes.
Oui, les dons sont en légère hausse cette année, mais restent insuffisants pour combler la demande de spermatozoïdes qui a été multipliée par 5 depuis le passage de la loi. Aujourd'hui, si les donneurs sont si peu nombreux, c'est parce que trop peu de centres sont autorisés à récolter ces dons. C'est ce que dénonce Michael Agopians, chef du service PMA du CHU de Nancy.
Il y en a 27 ou 28 sur une centaine de centres clinico-biologiques d'AMP qui font l'insémination et la fécondation in vitro, effectivement. Augmenter le nombre de centres autorisés pour le don augmente les possibilités pour les gens qui souhaitent donner.
Et depuis le 1er septembre, les donneurs n'ont plus l'assurance que leur anonymat sera préservé. Mais pour l'instant, on ne sait pas si cela aura des conséquences sur les dons.
Alors forcément, on se dit que si rien n'a réellement bougé, Mao, ça veut dire que les Françaises continuent d'aller à l'étranger pour bénéficier de PMA. C'est le cas ou pas?
Oui, alors par curiosité, j'ai appelé un médecin qui coordonne 27 cliniques en Espagne pour savoir si depuis le passage de la loi, le public venait moins. Et la réponse est non. Hein. Au contraire, l'augmentation reste constante. Nina, 33 ans, a commencé son processus quand la loi en France venait de passer.
On avait envie de construire notre famille rapidement. Du coup, on a pris la décision de partir en Espagne malgré l'inconvénient principal qui est l'aspect financier.
Et aujourd'hui, elle ne regrette pas, car même si elle et sa femme ont dépensé plus de 20 000 euros alors que c'est gratuit en France, Nina a maintenant un petit bébé dans le ventre. La PMA pour toutes reste donc beaucoup plus accessible si on a et du temps et de l'argent.
Merci Mao. Mao Becker-Granier, enquête à retrouver en intégralité sur notre site rmc.fr. Et puis vous connaissez le chemin, 3216, si vous souhaitez témoigner sur ce sujet. Vous êtes peut-être concerné par cette PMA, la procréation médicalement assistée, désormais ouverte à toutes les femmes, couples de femmes, femmes seules, de depuis un an. Il est 7h10.
RMC jusqu'à 9h.
La matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Soyez les bienvenus sur RMC et rendez-vous d'ores et déjà dans 20 minutes. Vous connaissez le rendez-vous, à vous de nous dire. Castaner, Montchalin, Blanquer, ils ont tous retrouvé du boulot, recasé les anciens ministres. Est-ce que ça vous choque? On en débat avec vous au 32-16 ce matin, vos appels dès maintenant et donc rendez-vous tout à l'heure, 7h10. D'abord, vos histoires du week-end.
Les histoires du week-end.
Avec tout le monde autour de la table pour le petit déjeuner, Peggy Broche, Margot Bourdin, Stéphanie Rock, vous avez épluché les journaux pour nous et vous nous avez déniché le meilleur de l'insolite. On va démarrer avec Peggy. Où fait-il bon vivre à la retraite?
Ah, bah, c'est une question à laquelle je vais répondre. Je vais vous la poser aussi. Il faut savoir que 75 000 retraités sur 620 000 chaque année déménagent, changent de région. 44, ah oui. Ça concerne par exemple, selon l'INSEE, 44% des franciliens. C'est-à-dire qu'ils décident de partir de la région parisienne. Ce qui n'est en soi pas étonnant.
Oui, exactement.
Différents critères ont été pris en compte pour le choix. La qualité de vie, la sécurité, la santé et la vie sociale. Parce que ça, c'est important. D'après vous, la région la plus prisée, si on coupe la France en quatre?
Bah déjà, il y a une bonne moitié au sud.
Oui, voilà. Au bord de la mer, c'est sûr. Oui, voilà. Eh bien, le sud-ouest, en premier. Première ville, c'est la Côte Basque, c'est Biarritz. Là, tout y est, la météo, les commerces de proximité, les loisirs, il n'y a pas de désert médical, il y a peu de délinquance. Bref, la ville idéale se classait en première position. En deux, c'est Carcassonne. En trois, c'est Dax. Donc la mer, forcément, attire, mais la montagne aussi, puisqu'il y a dans le massif central des villes comme Rodez en quatrième position, Millau en cinq. Ah, oui. Et là, ce qui attire, en fait, c'est l'immobilier, les restaurants et les espaces verts, parce que c'est vrai que ça fait du bien ça aussi. Et de plus en plus choisissent la Bretagne et la Normandie. Pourtant, on pourrait se dire que c'est pas là où il fait le plus beau, c'est vrai, mais comme la météo change, ça commence à attirer. Et pour vous, d'après vous, la région la moins prisée?
Bah, le
l'Île-de-France. Eh ben oui, le Grand Est, vous voyez, le Nord-Est. Là, malheureusement, la météo ne donne pas vraiment envie.
Bon, allez, racontez-nous. Peut-être que vous êtes allé passer votre retraite ailleurs. Vous vous êtes arraché à vos terres natales pour un peu plus de douceur. N'hésitez pas. 32-16 si vous souhaitez intervenir. Stéphanie Rock, vous voulez nous présenter une forme de coup de cœur ce matin. Ce magazine qui s'appelle À fond. Et c'est le premier magazine pour enfants entièrement consacré au sport.
Exactement. C'est une belle initiative d'une ancienne consoeur, ancienne journaliste de l'équipe, Myriam Alizon, qui a voulu lancer son magazine. Alors, officiellement, il est destiné aux 7-11 ans, mais on peut y trouver
matière. Oui, je l'ai feuilleté d'ailleurs.
Vous l'avez feuilleté, on apprend plein de choses. Notamment sur Julien Alaphilippe, par exemple, le cycliste qui fait la une, la couverture de ce premier magazine. C'est un bimestriel. Et c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Il y a des posters, des dossiers sur le basket à trois. Notamment, c'est plutôt ludique, c'est très coloré, avec beaucoup de photos. Forcément, il faut que ça puisse aussi attirer l'œil des plus jeunes. Et puis, ça donne aussi envie, pourquoi pas, aux plus petits de se mettre au sport. Et puis, il faut noter aussi que Myriam Alizon est dans une logique de parité absolue, puisque ce magazine va faire la part belle aux femmes. Alors, si on a une couverture, cette fois-ci, avec un homme, Julien Alaphilippe, elle a décidé d'alterner d'un mois à l'autre, avec aussi des sportives qui seront mises à l'honneur. C'est une manière aussi de rendre hommage au sport féminin. Le premier numéro est sorti en septembre, donc il couvre septembre et octobre. Le prochain est attendu pour début novembre. Voilà, on salue cette belle initiative.
Serena Williams, cette fois-ci en couverture.
Avec la queen, comme dirait Stéphane Genest, qui aime beaucoup ce mot, Serena Williams.
La queen, bien sûr. Et puis Margot Bourdin, une nouvelle mode cet automne?
Oui.
Pull bleu comme vous?
Non. À Noël, en parlant de pull, vous connaissez la mode des pulls moches, oui. La mode des décorations, des guirlandes lumineuses et bien sûr la tradition du sapin de Noël. Je vous apprends rien ce matin, mais connaissez-vous la mode du sapin d'Halloween?
Oh. C'est quoi ça?
Bah, c'est américain, évidemment.
Non. J'ai découvert cette tradition sur le site internet du HuffPost ce matin. Alors, je vous explique ce que c'est. En fait, comme pour Noël, on décore son sapin, mais à la place des boules, des guirlandes et des étoiles dans les branches, eh bien, on le décore de citrouilles, de petits fantômes et de faux crânes bien effrayants. Sur les réseaux sociaux, les passionnés postent leurs plus belles photos. On rivalise de créativité et je dois dire que c'est assez surprenant et surtout très réussi. Il y a même un hashtag qui rassemble toutes ces photos. Halloween Tree, arbre d'Halloween en français dans le texte. Il cumule plusieurs millions de posts, preuve de l'engouement. Alors, il y a beaucoup de photos postées par des comptes américains ou canadiens. Vous savez que de l'autre côté de l'Atlantique, Halloween, c'est une immense tradition. Mais moi, ce matin, je veux savoir si vous faites déjà votre arbre d'Halloween ou si vous décorez toute votre maison à la fin du mois, puisque c'est dans un mois, Halloween.
Oui, c'est vrai. Et puis, le poil.
30 jours.
On a
vous le faites, Mathieu?
Oui, bien sûr. Et puis,
il était dessus ce matin avant d'arriver.
Éplucher les potirons et les machins, ça va, deux secondes. Non.
Et ce sont de vrais sapins? Alors, c'est un arbre quelconque et on
compte. J'ai l'impression sur les photos que c'est plutôt les sapins artificiels. D'accord. Comme ça, je pense qu'ils les gardent.
On les garde pour Noël. On enlève la déco et on met une guirlande et des boules.
Ah, si c'est écolo, peut-être que ça peut plaire, les amis. Merci à toutes les trois. Il est 7h05.
La matinale week-end.
Les paris RMC.
Les paris, c'est avec le coach Roland Courbis et Jean-Christophe Drouet. Bonjour à vous deux.
Salut Mathieu.
Salut Mathieu et salut à tous.
Alors deux matchs de Ligue 1 aujourd'hui, 9e journée du championnat après la trêve internationale. Ça y est, la Ligue 1 reprend ses droits. 17h Strasbourg-Rennes et 21h Paris-Saint-Germain-Nice. Mon cher coach, tu as choisi évidemment cette rencontre. Le leader parisien reçoit Nice seulement 13e. Les cotes implacable, 1-16 la victoire du Paris Saint-Germain, 8-50 le nul, 16 la victoire de Nice. On joue quoi sur ce match?
Une victoire de Paris Saint-Germain, ça me paraît être tout à fait logique et probable, mais je vois quand même des buts. Donc je prendrai le risque de mettre plus de 3,5 dans le match.
Ok. Le Paris Saint-Germain qui s'impose, plus de 3,5 buts dans le match. Il faut savoir évidemment qu'avec le PSG, souvent les cotes sont basses, donc il faut tenter de se creuser la tête pour trouver une belle cote. On arrive quasiment à 2 avec cette cote, 1,84 pour le pari plutôt sûr de Roland Courbis. Maintenant, je sais que t'es allé chercher un pari plutôt fou sur cette rencontre.
Ben oui, parce que Messi, que je trouve toujours en forme, et qui vient encore de le démontrer avec son équipe nationale, il va bien finir par nous mettre un coup franc. Donc, Messi sur coup franc.
Messi, coup franc direct. Il a d'ailleurs marqué dans cet exercice avec l'Argentine. Toujours pas avec le Paris Saint-Germain, mais on sent qu'on s'en rapproche. Le coup franc direct de Messi, écoutez-moi bien, c'est 20. 10 euros, 200 euros.
Ben, ça vaut le coup de tenter.
Avec le coach. Et si vous voulez juste jouer le but de Messi, c'est un 80. C'est un peu moins, mais évidemment, vous prenez moins de risques. Voilà, pour la cote à 20, on se retrouve dimanche pour en parler.
Et puis tout à l'heure aussi, bien sûr, messieurs les paris RMC, 12h, 13h, toute la Dream Team en direct. En attendant, il est bientôt 7h. Bon réveil à vous tous. La une de 7h, ce rebondissement dans l'affaire Julien Bayou. Détails et explications dans une minute.
RMC, la matinale week-end.